Les marchandes de sable, Brunefeuille, le prince se marie et autres contes inclusifs. Louis de Fer de Andrea Tompa. Il était une fois, par-delà le bout du village, par-delà l'endroit où vivent les plus pauvres, par-delà même l'endroit où commencent les mauvaises terres et le marécage, un pauvre homme et une pauvre femme. Ils vivaient ensemble, s'appuyant l'un sur l'autre comme deux sacs de patates. Ils n'avaient rien, juste un toit plein de trous au-dessus de leur tête. Ils avaient eu beau travailler toute leur vie, ils s'échinaient encore sur la terre des autres. Non seulement le bon Dieu ne leur avait pas donné de terre, mais pas d'enfants non plus. Un jour qu'ils allaient dans la forêt ramasser un peu de bois mort pour faire du feu, dame, c'était l'hiver, le vent et le gel ne se souciaient pas des pauvres, ils ne faisaient que souffler le froid par les brèches de la maison. La femme soupira. Combien de temps devrons-nous encore traîner cette vie de misère sur notre dos? Nous n'avons rien, le Créateur ne nous donnera plus d'enfants à présent, nous sommes trop vieux. L'homme, qui marchait devant afin de tasser la neige pour sa femme, car dans leur grande misère, ils n'avaient que leur amour à partager, répondit « Arrête, ma femme, nous n'avons pas à demander de compte au Seigneur ici-bas, ce n'est point notre affaire. » « On se demande bien quelle est notre affaire, mon homme, » dit la femme avec tristesse, et elle suivit son mari dans la neige profonde. Une fois dans la forêt, ils ne trouvèrent pas de bois à ramasser, ils ne virent que les arbres. Toutes les branches mortes cassées par le vent étaient enfouies sous l'épaisse couche de neige. Mais l'homme aperçut des traces fraîches laissées par de toutes petites bottes et il dit « Eh bien, ma femme, nous sommes venus trop tard. Quelqu'un d'autre est venu avant nous et a ramassé le bois. » « C'était une femme, » répondit-elle. « Ce sont de toutes petites bottes. Allons ailleurs où nous aurons plus de chance. » Ils s'apprêtaient à revenir sur leurs pas quand soudain, ils entendirent comme un faible gémissement. Ils s'arrêtèrent, tressèrent l'oreille. Un animal pris au piège? Ils avancèrent dans le sous-sol en direction de la voie. Ils avaient beau regarder de tous côtés, ils ne voyaient rien. Ils entendaient seulement ce vagissement. « Qu'est-ce que c'est, mon homme ? Peut-être un renard pris au piège ?»« Un renard, allons donc, c'est une voix humaine. Je suis peut-être vieille et dérangée, mais je sais reconnaître une voix d'enfant. » Ils regardèrent partout alentour, examinèrent le pied des arbres. Soudain, la femme leva la tête. La voix semblait venir d'en haut. Et que vit-elle? Un grand châle brodé attaché à une branche. « Viens vite, mon homme, regarde donc ce qu'il y a dans l'arbre. » Le vieux grimpa, attira la branche et détacha le châle qui y était noué serré. Quelqu'un a laissé là son châle du dimanche. Brodé comme il est, ce doit être une riche demoiselle, pour sûr. Il redescendit avec le châle, mais la petite voix qui jusque-là ne faisait que gémir ou vagir éclata d'un grand rire. Ils ouvrirent le châle et voilà qu'à l'intérieur, Seigneur Dieu, il y avait un tout petit enfant, mais vraiment tout petit, petit. « Père, mère !» clama la petite voix. « Enfin vous voilà !» Le tout petit enfant riait, mais riait, et tendait ses petits bras vers les deux vieux. Ces derniers ouvrirent de grands yeux. « Père, mère, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, je suis arrivée !» Alors les deux vieux se réjouirent. Ils se passaient et se reprenaient l'enfant, ne faisaient que le regarder, le retournaient dans tous les sens, émerveillés. « Ah, toi, tu es un don du ciel !» lui dirent-ils. « Tu vois, mon homme, tu vois. Ah, mon fils, mon cher fils !» Et les larmes coulaient sur leur visage ridé, comme un ruisseau au printemps. Ils enveloppèrent soigneusement l'enfant dans le fichu brodé et l'emportèrent chez eux. En chemin, la femme dit « Eh, mon homme, nous n'avons pas ramassé un seul bout de bois. « Comment vais-je faire à manger pour le petit ?» L'homme se gratta la tête et dit « Je démonterai l'escalier de la cave. Tu cuisineras avec, ma femme. De toute façon, il n'y a plus rien dans la cave. Nous n'avons plus besoin d'y descendre. »« Ne vous inquiétez pas, mère. J'irai chercher du bois. Donnez-moi seulement un petit pot de lait. »« Comment veux-tu que je te donne du lait, mon fils, quand nous n'avons rien ? Nous n'avons plus qu'une poignée de maïs. Je le ferai cuire pour toi. » « Allez demander un pot de lait au voisin, père. Dites-lui que votre enfant est né, mais que le lait de sa mère ne vient pas. »« Hélas, mon fils, le voisin est un jaloux, il n'en donnera pas. »« Allez-y, père, il en donnera. » Quand ils arrivèrent à la maison, le vieux se rendit chez le voisin avec un pot ébréché. Il dit que son fils était né. Le voisin ouvrit de grands yeux. Il ne dit rien, mais le vieux rapporta le pot plein de lait frais. L'enfant but tout le lait chaud et sauta sur ses pieds pour aller ramasser du bois. Le vieux voulut l'accompagner pour lui montrer, mais l'enfant lui dit de le laisser et de nettoyer le four pendant ce temps pour qu'il puisse cuisiner. « Cuisiner ? Mais quoi donc ?» pensait la femme. « On n'a qu'une poignée de maïs. » L'enfant partit en courant sur ses toutes petites jambes. Il n'emporta qu'une mauvaise corde pour attacher le bois. Les deux vieux se mirent à nettoyer le four, mais ils étaient si heureux qu'ils ne travaillaient guère. Juste comme l'homme finissait de vider les cendres du foyer, l'enfant revint, rouge à force de courir. Mais on ne le voyait pas, parce qu'il avait sur le dos un si gros fagot que c'était un miracle qu'il puisse le porter. « Me voilà, père, j'ai grand faim. » « Eh bien, mon fils, nous allons vite te préparer ce petit peu de maïs. Nous-mêmes n'en avons pas besoin parce que nous sommes vieux et le bonheur de voir notre fils suffit à nous rassasier. » La femme mit de l'eau dans la marmite. Ils allumèrent le feu. Et tout de suite, une chaleur miraculeuse se répandit. La femme alla chercher la poignée de maïs, versa tout dans la marmite. Mais quand elle eut fini, voilà que la marmite était pleine. Ils la regardèrent bouillonner sur le feu, puis suivirent le garçon, mais remplirent aussi une grande écuelle pour chacun d'eux. Et il n'y avait pas que de la polenta, il y avait aussi du bon lard bien gras, une merveille. Le garçon vida une écuelle, puis une autre, puis une troisième. Alors la femme lui demanda « As-tu bien mangé, mon fils ?»« Je pourrais encore manger, pour sûr. Ramasser du bois m'a donné faim. »« Eh bien, sers-toi, bon appétit !» Le garçon vida en tout 7 écuelles de polenta et but 7 seaux d'eau du puits. Puis il s'allongea en haut du poêle et demanda que ses chers parents le réveillent au matin parce qu'il avait à faire. Il devait réparer le toit et un côté de la maison. Mais avant, il devait lui raconter une histoire pour qu'il dorme bien. Alors les parents lui racontèrent leur vie, la vie qu'ils avaient passée à attendre d'avoir un enfant. Ils étaient assis devant le poêle et remettaient du bois dans le feu pour qu'il fasse bien chaud. Mais le fagot ne diminuait pas. Ils restèrent là à regarder le tout petit bonhomme qui ronflait si fort qu'il faisait trembler le toit de la maison. Ils le regardèrent encore se lever le matin. Il était si petit qu'ils ouvrirent de grands yeux. Il n'était pas plus grand que le pouce de son père. Mais quand il alla chercher l'eau au puits, on aurait dit qu'il portait un seau sur chacun de ses petits doigts. Il mangea encore 7 écuelles de polenta au petit déjeuner et demanda du café. « Mon cher fils, tu bois déjà du café ?» « J'ai envie de café, père. Donnez-moi. »« Nous n'avons pas de café, mon fils. Nous sommes pauvres. Tu n'es pas né dans un bon endroit, mais dans la grande misère. » Alors le tout petit bonhomme grimpa sur la table, puis sur le buffet, et prit une boîte tout en haut. Il l'ouvrit et huma. « Mère, vous aviez oublié ce café fraîchement torréfié qui sent si bon. Il était là, tout en haut du buffet. » La femme en resta ébahie. Elle n'avait pas bu une goutte de café depuis sa jeunesse. Ils préparèrent un bon café bien fort et le burent assis à table comme des seigneurs. « Bon, à présent, père, allons réparer ce mur, parce qu'il y a trop de monde dans cette maison. Les souris entrent ici comme elles veulent, il n'y a plus assez de place pour nous. » Mais le vieux dit qu'il n'avait ni planche ni outils. « Allez demander au voisin, père, dites-lui que vous les lui rendrez quand votre fils sera grand. » Alors le vieux alla chez le voisin qui s'étonna, mais donna des clous, des planches et tout ce qu'il fallait. Puis il demanda « Dis, Louis, comment s'appelle ton fils ?»« Louis, comme moi, Louis de Fer. » Dame, oui, ce Louis de Fer, ce qu'il entreprenait, il le faisait. Et si bien que ses pauvres parents restaient là, les larmes aux yeux, à regarder leur tout petit enfant travailler. À la venue du printemps, Louis de Fer dit qu'il fallait semer du blé et du maïs. « Où veux-tu que nous semions, mon fils ? Nous n'avons pas de terre. »« Derrière la maison, ce sera bien, père. Il y a tellement de pierres que le grain ne lèvera pas. »« Ne vous en faites pas, père. Nous ôterons les pierres et en ferons une si grande maison que même les chevaux en restera bouche bée. » Ni une ni deux, Louis de Fer sortit les pierres de la terre et se mit à bâtir une solide maison. Puis il dit à son père de demander au voisin une poignée de blé à semer, en promettant de le lui rendre quand son fils aurait grandi. Là-dessus, le vieux retourna chez le voisin et lui demanda une poignée de blé. Le voisin la lui donna, mais il sortit lui aussi au bout de son jardin pour voir le petit bonhomme travailler. Pour sûr, ce dernier travaillait mieux qu'une machine. Il lui suffisait de boire 7 pintes d'eau et de manger 7 écuelles de polenta avec du bon lard gras. Louis de Fer agita son chapeau en remerciement pour la poignée de blé qui sortait déjà de terre et commençait à onduler sous le joli vent printanier. Le voisin rentra chez lui la mine renfrognée, car dans son champ, le blé levait à peine. Il y avait un marais près du village. Louis de Fer dit à son père de prévenir l'échevin qu'il allait assécher le marais parce qu'il voulait en faire une pâture. « Que ferons-nous pâturer, mon fils ? Nous n'avons pas même une vieille poule, encore moins un cochon ou une chèvre. » « Ne vous inquiétez pas, père. Nous vendrons le blé et nous achèterons tout ce qu'il faut. »«
Que nenni, nous ne vendrons pas de blé, mon fils, car nous aussi nous avons droit à notre pain blanc. »«
Il y aura tant de blé que vous ne pourrez pas tout engranger, père. » Et en vérité, il y eut tellement de blé qu'ils durent emprunter le chariot du voisin pour aller le vendre. La femme mesurait au boisseau, le vieil homme comptait l'argent. Louis de Fer servait, assis sur le tas de blé. Mais le chariot ne fut même pas vidé. Et sur le chemin du retour, la femme dut enlever son jupon pour y mettre tout l'argent, car il y en avait tant qu'il ne tenait pas dans le boisseau. Alors Louis de Fer rendit au voisin son chariot plein de blé, avec une poignée de pièces d'argent. Il dit aussi en le remerciant qu'il ne lui emprunterait plus, parce qu'il allait acheter un chariot, un bœuf, un cheval, un cochon, tout ce qu'il fallait. « Et où mettrons-nous tout ça, mon fils ? Nous n'avons pas de grange. » Nous irons habiter dans la maison en pierre. Voyez, mère, avec les pierres que j'ai retirées de la terre, j'ai bâti une maison si solide que vous serez au chaud sur vos vieux jours.
Mais nous sommes déjà vieux, mon fils. Nous n'avons pas besoin d'une maison en pierre. Nous irons bientôt dans une autre demeure où nous n'aurons plus jamais froid.
Mais non, vous n'êtes pas vieux. Il faut que vous voyiez encore vos petits-enfants.
Parce que tu vas aussi nous donner des petits-enfants, mon fils.
Moi aussi, comme vous, je veux un enfant, mais pas dans une grande misère. Père, qu'a dit l'échevin pour le marais ?
Il a dit qu'on ne pouvait pas l'assécher.
Faites-moi confiance, père. Là-dessus, Louis de Fer se rendit au marais en emportant deux seaux. Au bout d'à peine 3 jours et 3 nuits, il l'avait si bien asséché qu'il ne restait plus que de la bonne terre noire à la place. Il attacha les roseaux en bottes et les donna aux pauvres pour leur toit de chaume, et il transporta l'eau pour faire un vivier. Détruite s'y ébattait déjà. Il en rapporta 7 seaux et les fit cuire pour ses parents. Ceci ne faisait que s'émerveiller. De toute leur vie, ils n'avaient jamais rien mangé d'aussi bon que les truites préparées par leur fils. Ayant appris que le fils des pauvres gens avait aménagé un potager et un verger dans le marais, l'échevin s'y rendit. Il vit des poires et des pommes de belle taille, et des pieds de vigne croulant sous les grappes de muscat. Louis de Fer était en train de le mettre en tonneau pour en faire du vin. Voyant cela, l'échevin se mit en colère et dit au père de Louis :
« Écoute bien, le pauvre. Ce marais appartient à la commune. Tu dois le rendre. »«
Ce n'est pas un marais, monsieur l'échevin, mais une bonne terre noire, une vraie merveille, » intervint Louis de Fer. Sans même regarder le petit bonhomme, l'échevin continua de s'adresser au père.
« Il faut le rendre. Un point, c'est tout. »
Le pauvre vieux ne savait que faire. Il dit à son fils qu'il fallait rendre la terre. « Ne vous en faites pas, père. J'en achèterai d'autres. » Alors il cueillit tous les fruits et légumes, débita menu tous les arbres et inonda la terre avec l'eau de l'étang. Nous le lui rendrons tel que nous l'avons reçu. Nous avons demandé un marais, c'est un marais que nous rendrons. Faites venir l'échevin. L'échevin arriva, et en voyant qu'au lieu du magnifique jardin il n'y avait plus qu'un marécage, il entra dans une colère noire. Puis il dit au vieux de faire venir le petit bonhomme, et Louis de Fer vint à son tour.
À votre service, monsieur l'échevin. Le marais n'est peut-être pas assez bien pour vous.
Écoute-moi bien, toi, quel que soit ton nom. Écoute bien, dit le cheval en lui lançant un regard furieux. Tu vas voir ce que tu vas voir.
Par la suite, l'échevin chercha tous les moyens de le punir, mais n'y parvint pas, parce que rien de ce que faisait Louis n'était condamnable. Et Louis de Fer continua à travailler. Il acheta de la terre, la cultiva, garda une partie de ses récoltes pour lui et ses parents, vendit le reste et en laissa toujours assez dans ses champs pour que les pauvres aient de quoi glaner. Mais il aimait par-dessus tout la confiture de prunes. Il en conservait toujours 5 tonnelées. Il avait déjà 2 couples de bœufs, 1 cochon. Et quand les parents le regardaient, ils étaient toujours émerveillés du petit gars qui leur avait été donné. Et ils rendaient grâce au Créateur. Ils étaient si heureux qu'ils en étaient tout rajeunis. Un dimanche, avant d'aller à l'église, la femme dit « Louis, mon fils, je vais mettre ce beau fichu dans lequel nous t'avons trouvé dans la forêt. » Ils avaient toujours pris soin du châle en l'enveloppant dans du papier de soie avec de la naphtaline. Elle le mit sur ses épaules et miracle, Elle avait l'air d'une jeune femme. À l'église, ils s'assirent au dernier rang, là où est la place des pauvres. L'échevin arriva après eux, et en voyant le châle, il dit à la femme « Où as-tu volé ce châle, pauvresse ?» La femme, effrayée, répondit « Nous ne sommes pas des voleurs, monsieur l'échevin. D'où tiens-tu un si beau châle brodé ?»«
Nous l'avons trouvé dans la forêt. » »«
Comment avez-vous pu trouver dans la forêt un si beau châle brodé ?» La femme n'avait pas envie de dire qu'il n'avait pas trouvé seulement le châle, mais qu'il enveloppait un bien plus beau présent. Alors l'échevin déclara qu'elle serait punie pour avoir volé. Le curé venait justement de prêcher au sujet des voleurs et d'expliquer quel serait leur châtiment quand viendrait le jugement dernier. Pourtant, ce curé n'avait pas vraiment bonne réputation. Quand ils sortirent de l'église, l'échevin les attendait sous le porche et dit que la femme devait le suivre au cachot parce qu'elle était une voleuse. La femme se mit à pleurer. Ses larmes ruisselèrent. Elle dit à son mari et à son enfant qu'elle préférait aller en prison, mais elle ne dirait pas d'où venait le châle. Alors Louis de Fer se campa en face de l'échevin, les poings sur les hanches. Et devant tous les gens du village qui sortaient de l'église, il déclara d'une voix tonitruante, parce que ce gars n'avait pas seulement une force gigantesque, mais aussi une très grosse voix. « Ma chère mère n'a pas volé un seul fichu de sa vie !» L'échevin dit que si, elle avait assurément volé ce châle. Il le savait parce qu'il en connaissait la propriétaire. Ce châle, il l'avait acheté au marché pour sa servante.
Si c'était bien le fichu de votre servante, alors vous savez aussi ce qu'il y avait dedans quand mon père et ma mère l'ont trouvé dans la forêt.
Pardi, les belles épaules rondes de cette jeune fille, quoi d'autre ? Enragea l'échevin tout en se moquant du petit bonhomme.
Ce n'est pas vrai, s'écria Louis de Fer. C'était ma vie qui était dedans.
Ta vie ? Dit l'échevin de plus en plus surpris.
La servante, qui se tenait juste derrière lui, pâlissait à vue d'œil. Elle lui murmura. Laissez, monsieur l'échevin, ce fichu m'est égal. Je l'ai perdu dans la forêt, c'était il y a longtemps. Laissez, je n'en ai pas besoin, vous m'en avez donné un autre.
Mais l'échevin ne lâcha pas prise. Louis de Fer lui dit « Ma chère mère a trouvé honnêtement ce châle, et dedans, un tout petit enfant qu'elle a élevé. C'est moi, on m'avait attaché à un arbre de la forêt. Celle à qui ce châle appartient désormais, c'est ma mère. Quant à vous, dit-il à la servante, vous êtes ma mère biologique. Et qui est mon père biologique? Je l'ignore, et vous-même peut-être aussi. » « Sans doute une espèce de sans-vergogne, parce qu'il a déshonoré une jeune fille, » dit-il en regardant l'échevin droit dans les yeux. Alors la servante empoigna le châle sur les épaules de la vieille femme et le lui arracha, avant de se tourner vers lui. « Tu es mon fils !» hurla-t-elle. La vieille femme resta sans bouger. Elle ne tendit pas la main pour reprendre le châle. Elle regardait son tout petit-fils. Alors le curé demanda à l'échevin.
« Eh bien, monsieur l'échevin, à qui est cet enfant ? À celle qui l'a mis au monde ou à celle qui l'a élevé ? Que dit la loi ?»
Mais la loi ne dit rien, et l'échevin était complètement hébété. Il regardait de tous côtés, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt le petit bonhomme, sans dire un mot. Louis de Fer se ressaisit et s'approcha de sa mère biologique. « Je vous remercie de m'avoir donné la vie, » dit-il en s'inclinant devant elle. « Rendez ce châle, car c'est à moi qu'il revient. » Alors il prit le châle, se retourna, prit ses parents par la main et ils se mirent en route. L'échevin, la servante, le curé et les villageois restèrent muets. Le petit homme et ses parents rentrèrent à pied chez eux parce qu'ils avaient l'habitude d'aller à pied et non en voiture comme des seigneurs. C'était dimanche, Louis de Fer ne travaillait pas le dimanche parce que le seigneur a consacré ce jour au repos. Louis avala 3 as au déjeuner, but 3 cruches d'eau et ensuite un pot de café bien fort. Puis il s'assit avec ses parents sur la terrasse de la solide maison en pierre pour compter les nuages, comme des seigneurs. Et les parents se mirent à compter, car Louis avait beau être fort et intelligent, il aimait les contes autant que la confiture de prunes. Ils lui racontèrent l'histoire d'un enfant, abandonné qu'ils avaient trouvé dans la forêt, parce que le seigneur les avait faits les uns pour les autres.